Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de cette nuit un peu écourtée. Bon, c'est une fois par an normalement. Alors, nous continuons ce matin notre série sur l'épître de Jacques. Je ne sais pas si ça y est, l'épître de Jacques est devenu votre lecture quotidienne. Je vous encourage à pouvoir le. C'est une épître relativement courte, à pouvoir la lire régulièrement pendant notre série. Nous avons encore plusieurs semaines sur l'épître de Jacques et je pense que cette série sera d'autant plus bénéfique si elle peut faire partie aussi de votre lecture quotidienne. Et la question que Jacques nous pose ce matin dans ce troisième chapitre à partir du verset 13 est la suivante. Qui est sage et intelligent parmi vous ? Alors la question peut être un peu sensible, un peu délicate. On se classe pas forcément entre nous en fonction de ceux qui sont sages d'un côté et ceux qui sont moins sages de l'autre. Et c'est bien comme ça. Ça peut être quelque chose de subjectif de savoir. Alors c'est quoi la sagesse ? Qui est vraiment sage ? C'est pas facile de pouvoir avoir une certaine lucidité par rapport à ça. Des fois, on peut avoir l'idée d'être rapide à juger qui est sage et qui ne l'est pas quand on regarde les autres. Et puis, quand il s'agit de pouvoir se considérer soi-même, on n'est pas toujours le meilleur arbitre. La sagesse, c'est un petit peu comme l'orgueil. On peut repérer certains comme orgueilleux, mais l'orgueilleux est toujours le dernier au courant à savoir qu'il est orgueilleux. C'est toujours difficile d'être lucide par rapport à ça. Et même celui qui se dirait humble, on voit déjà qu'il y a quelque chose d'orgueilleux dans ce premier diagnostic et il y a un serpent qui se mord la queue. Et il y a quelque chose de ce même ordre avec la sagesse. Que déjà se présenter comme sage, c'est déjà passer à côté de ce qu'il y a à découvrir dans la sagesse et dans la sagesse de Dieu. Donc c'est pas facile d'y voir clair et c'est quelque chose qui nous concerne tous. Je crois qu'il y a personne qui puisse dire c'est bon, j'ai pas besoin de l'aide de Dieu pour ce qui est de la sagesse. J'ai tout un stock à la maison. J'ai plus besoin de demander de l'aide de Dieu par rapport à la sagesse. Le simple fait d'avoir cette lecture de la situation serait déjà une première preuve qu'il y a peut-être un problème avec notre sagesse. Alors c'est avec ce sujet, je crois vraiment, qui nous concerne tous et tout le temps, que je voudrais qu'on puisse commencer en lisant ce texte. Dans Jacques 3, versets 13 à 18. Jacques 3, à partir du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au contraire une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et n'en mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Jusqu'ici notre lecture. Alors, avant même de définir ce qu'est la sagesse, Jacques pose un premier point qui est essentiel. Comme c'est en général le cas, on l'a déjà vu ailleurs avec Jacques, pour lui l'enjeu c'est pas la sagesse en soi, mais c'est ce que produit la sagesse. C'est pas une question de savoir à quoi ressemble la sagesse pure, mais plutôt comment reconnaître le fruit d'une sagesse qui vient de Dieu. Comme Jésus le dit, c'est au fruit qu'on reconnaît son arbre. Pas besoin de se poser 10 000 questions sur l'arbre, mais d'abord, quel est le fruit ? Qu'est-ce que produit cette sagesse ? On pourrait traduire ce verset 13 en lisant « Que celui-là montre les œuvres de sa bonne conduite faites avec douceur, avec la douceur de la sagesse. » L'important, c'est les œuvres de sa bonne conduite. Et plus que ces œuvres-là, même la manière dont ces œuvres sont accomplies. Jacques parle ici de la douceur de la sagesse. C'est bien beau d'avoir tout un tas de, de beaux discours sur des choses sages et profondes sur les réalités de la vie. Mais Jacques, avec son côté toujours très terre à terre, nous dit, mais très bien, parlez si vous voulez, mais qu'est-ce que ça produit dans votre vie? Qu'est-ce que ça, quels en sont les fruits? Je discutais récemment avec un Péruvien qui me parlait d'une rencontre qu'il avait faite avec un révolutionnaire marxiste péruvien qui lui disait, mais vous les chrétiens, vous êtes bien gentils, moi il n'y a pas de problème, je voudrais bien croire et devenir chrétien. Si seulement vous pouviez avoir une vie qui ressemble un peu plus au Jésus que vous prêchez, il n'y a pas de problème, je deviendrai chrétien. Et il y a une sagesse là-dedans qui est très terre à terre. On peut mettre en avant toute la sagesse qu'on veut, mais qu'est-ce que ça produit? Et je pense que pour revenir à cette question de sagesse et qu'est-ce qu'est la sagesse, il y a parfois une confusion entre ce qu'est la sagesse et ce qu'est le savoir ou la connaissance. Avec la sagesse, l'enjeu premier n'est pas une accumulation de données, de connaissances, de savoir tout sur tout, d'avoir un certain nombre de diplômes. Mais la sagesse, c'est des connaissances qui produisent des actes. La sagesse, c'est pas qu'un cerveau, c'est un cerveau avec des mains et des pieds. Si on peut imaginer cette image un peu bizarre. Comme ça a été dit il y a deux semaines par Hélène, ça se voit avec la manière dont le cerveau contrôle la langue. C'est jusqu'à la langue qu'on voit s'il y a une vraie sagesse. Si c'est juste une question de connaissance, alors on n'est pas vraiment dans la sagesse. J'ai bien aimé entendre cette citation cette semaine de quelqu'un qui faisait cette distinction entre connaissance et sagesse et qui disait « La connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas mettre la tomate dans une salade de fruits. » Et il y a quelque chose de très concret où c'est bien d'avoir la connaissance, mais si ça ne se concrétise pas avec la bonne action, il y a un décalage. Je pensais sur une note moins humoristique, le travail des historiens, où on peut voir le travail de l'historien comme quelqu'un qui sait tout sur ce qui s'est passé avant, mais je crois que l'historien qui fait bien son travail, l'historien qui fait son travail avec sagesse, c'est celui qui sait ce qui s'est passé avant et qui sait en tirer les conclusions pour aujourd'hui. Le sage sait ce qui s'est passé hier, mais non seulement il sait ce qui s'est passé hier, mais il sait en tirer les conclusions pour son action aujourd'hui. Et c'est exactement comme ça que Jésus également présente la sagesse. Si je vous relis un verset dans Matthieu 7, verset 24, « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé ou un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. » L'enjeu, ce n'est pas de tout connaître sur les enseignements de Jésus, c'est d'entendre les enseignements de Jésus et de les mettre en pratique. Là est l'homme sage, selon Jésus. C'est essentiel, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, de connaître ce que dit la parole de Dieu, d'étudier ce que dit la Bible. Mais est-ce qu'on la lit toujours, est-ce qu'on l'étudie toujours en se disant, mais qu'est-ce que ça doit produire dans ma vie? À quel moment ça doit rejoindre mes mains, mes pieds et ma langue? À quel moment ça doit toucher mes actions? Et est-ce que ma lecture est vraiment une lecture qui cherche à accumuler de la connaissance sur la Bible? Ou est-ce que c'est une connaissance de la volonté de Dieu pour mon action concrète aujourd'hui et pour toute ma vie. On voit bien que ça rejoint très clairement ce que Jacques disait un chapitre plus tôt sur la foi et les œuvres. La même manière qu'une vraie foi produit des œuvres de la foi, et que s'il n'y a pas les œuvres de la foi, alors Jacques n'a pas de mal à conclure qu'il n'y a pas vraiment de foi. De la même manière, ici, il dit, si vous avez juste des connaissances sur la sagesse de Dieu, c'est que vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Vous avez des connaissances. Mais si vous avez la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, comme il le dit, alors ça produira des fruits. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la sagesse se concrétise dans des actions concrètes, au final, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut quand même se dire, mais quels sont ces actes? À quoi ressemble le bon fruit de la sagesse d'en haut? Et là, dans le texte que nous avons lu, Jacques sépare en deux parties. D'abord, il présente la sagesse terrestre, il enseigne par le contre-exemple, et ensuite, il enseigne en présentant quelques caractéristiques de ce qu'il appelle la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Alors, on va reprendre ces deux parties. D'abord, la sagesse terrestre, versets 14 à 16. Je vous les relis. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Alors donc, qu'est-ce qui caractérise cette sagesse terrestre, animale ou tout simplement une manière de dire toute humaine sans être de Dieu? Je crois que si on rassemble ces éléments, le fait de parler de jalousie amère, de passion jalouse, d'ambition personnelle ou de fierté, moi, il y a quelque chose qui caractérise en son cœur cette sagesse terrestre, c'est le fait d'être centré sur soi, le fait de tout ramener à soi. Si on prend la jalousie, c'est simplement de regarder l'autre et lorsqu'il y a quelque chose de positif, de réjouissant dans la vie de l'autre, de ne pas pouvoir s'en réjouir parce qu'on est trop centré sur soi et se dire « mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai ? Pourquoi il n'y a pas ça dans ma propre vie ?» La même manière pour l'ambition personnelle. L'enjeu n'est pas d'avoir des objectifs et d'avoir des ambitions, mais si je suis centré sur moi-même, alors ces ambitions personnelles vont être capables de briser des relations, vont être capables de venir aller au-delà de ce qui sera pour le bien de l'autre, que je serai prêt à tout pour ces ambitions personnelles parce que l'objectif premier, c'est ce qui me concerne moi. C'est la même chose avec cette fierté, ou on pourrait dire cette vantardise même. C'est pas le simple fait de se réjouir d'avoir réussi quelque chose. Il y a de la joie à réussir pour pas stresser les étudiants en ce moment. Je crois que normalement il y a pas trop de partiels en ce moment, mais quand les partiels sont validés, quand le bac est validé, il y a un vrai sujet de joie. Mais il y a aussi cette joie qui devient une fierté d'avoir fait mieux que l'autre, de pouvoir mépriser l'autre, cette fierté qui devient de la vantardise et du mépris envers l'autre. Donc je crois que la jalousie et la fierté sont les deux côtés d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce. Si je suis centré sur moi, si ma sagesse m'amène à toujours considérer ce qui me concerne moi, alors quand je vais me comparer avec l'autre, soit je vais m'estimer supérieur et alors ce sera la fierté de la vantardise, soit je vais m'estimer inférieur d'une manière ou d'une autre et alors ce sera la jalousie amère, cette envie qui me fait dire « mais pourquoi c'est pas moi qui est à la même place ?» De certaine manière, cette sagesse, dans son cœur, dans sa définition même, elle a la capacité de briser les relations, elle a la capacité de désordonner toute relation et de rendre malsaine tout lien avec les autres. Et ça peut être profond et même parfois étonnant, même dans des relations qui peuvent paraître les plus saines. Je pensais notamment à des personnes qui peuvent aider énormément ceux qui sont faibles et être toujours en contact avec ceux qui ont besoin d'aide. Et n'allez pas entendre autre chose que c'est une bonne chose de faire ça, d'aller aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est tout à fait louable, c'est la relation la plus louable. Et en même temps, il peut arriver pour certains, quand la sagesse devient tournée vers soi, que d'être toujours avec plus faible que soi peut être une manière d'être toujours au-dessus et de ne pas être menacé par quelqu'un qui serait au-dessus de nous. Et c'est là où on voit le côté troublant de cette sagesse qui peut vraiment avoir l'apparence d'une vraie sagesse, mais qui parfois, si elle est en fait tournée vers soi, peut nous amener à détériorer de manière insidieuse un certain nombre de nos relations. Et le verset 14 finit de manière intéressante. « Ne mentez pas contre la vérité. » Alors, je ne crois pas qu'ici, l'enjeu soit que le sage, le vrai sage, soit quelqu'un qui ne ment pas et le sage, selon la sagesse terrestre, soit quelqu'un qui mente. Pourquoi pas? Mais c'est, je ne crois pas l'enjeu ici. L'enjeu, c'est que le fait de vivre cette vie centrée sur soi-même, c'est mépriser la vérité. C'est mépriser fondamentalement la manière dont Dieu a organisé ce monde, dans la manière dont Dieu a créé ce monde et dans la manière dont il veut que nous puissions vivre ensemble. C'est un mépris contre la profonde vérité que Dieu veut nous présenter. Un commentateur résume ainsi, Pour Jacques, tout ce qui ne serait pas une vie de soumission et de paix est un déni de vérité. Pour Jacques, c'est aussi fondamental que ça, qu'une sagesse qui serait centrée sur soi serait un déni de vérité. Et on voit dans le verset 16 les fruits que ça produit. Jacques parle d'un désordre et de toutes les mauvaises pratiques. Quand on commence à être notre propre Dieu, quand on commence à être le centre de la scène, alors tout le reste va avoir tendance à se désordonner. Cette idée de désordre, c'est cette idée de ne pas pouvoir accepter un certain ordre établi, de même pas pouvoir accepter une certaine autorité. C'est le premier péché d'Adam et Ève, c'est d'avoir voulu être Dieu à la place de Dieu. Quand on commence à être le centre de l'histoire, tout perd sa place, tout commence à se désordonner, à commencer par la place que Dieu devrait avoir dans notre vie. Et le fruit de ça, et on va pas aller jusqu'au chapitre 4, mais c'est vraiment pour ça que Jacques met autant d'importance sur la division, sur les querelles, sur les luttes entre les chrétiens notamment, c'est que cette sagesse terrestre rompt les relations, apporte la division. Si nous ne sommes qu'une rencontre de différents intérêts personnels, il ne pourra pas y avoir de paix ou d'unité. Et c'est dans ce sens qu'il fait l'opposition entre paix pour la sagesse d'en haut et désordre pour la sagesse terrestre. Alors, pour sortir un petit peu de ces sujets pas très réjouissants, passons maintenant à la sagesse d'en haut. Versets 17 et 18. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. On voit bien là que la sagesse d'en haut est vraiment présentée comme l'inverse de la sagesse d'en bas, dans un sens assez géométrique. Que là où il y avait égoïsme, ambition, jalousie et toutes ces choses qui sont centrées sur soi, s'inversent et deviennent un esprit tourné vers l'autre et tourné vers Dieu. Déjà dans le verset 13 que je viens pas de relire, mais Jacques parlait de la douceur de la sagesse, d'agir avec la douceur de la sagesse. Et un dictionnaire donne pour définition pour ce terme de douceur en grec la définition suivante, c'est la qualité de ne pas être conduit à l'excès par le sentiment de sa propre importance. C'est la qualité de ne pas être conduit à l'excès par le sentiment de sa propre importance. Et je pense que ça résume beaucoup de choses sur la manière dont est définie la sagesse d'en haut. Est-ce que ma vie, est-ce que la manière dont je forme mes projets, mes envies, ma manière de construire les relations avec les autres est conduite par ma propre importance ou par l'importance de Dieu et des autres? Et c'est seulement si c'est l'importance de Dieu et des autres qui conduit ma vie que je vais pouvoir être pacifique, conciliant, raisonnable. Et ces trois termes, d'une certaine manière, renvoient un petit peu à la même idée. En commençant par le dernier, celui d'être raisonnable, c'est pas raisonnable dans le sens de ne prendre qu'une seule part de dessert ce midi. C'est plutôt dans le sens d'être sensible aux arguments de l'autre, à pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire et de pouvoir se mettre d'accord, accepter d'être raisonné par l'autre. Certains traduisent même directement d'être obéissant, parce que c'est d'accepter de changer de comportement, de vision, de choix, suite à la discussion avec un autre. D'une certaine manière, c'est simplement l'inverse d'être une tête de mule. C'est d'avoir cette souplesse de pouvoir entendre l'avis de l'autre. Et c'est très proche du fait d'être conciliant, là aussi qu'un dictionnaire définit comme ne pas insister sur le respect de chacun de ses droits ou traditions. De ne pas camper et dire « ça, j'y ai droit. Ça, c'est comme ça que ça doit être fait et c'est indiscutable. » Non, cette sagesse d'en haut, elle est prête à entendre le besoin de l'autre, entendre le point de vue de l'autre et être prête à entendre même que ça peut impliquer de renoncer à certains de ses droits, des choses auxquelles on estime qu'il est juste que les choses se passent comme ça. De certaines manières, c'est tout simplement faire preuve de souplesse. Pas de souplesse dans le sens où on veut éviter le conflit et parce qu'on a peur du conflit, on va toujours être une sorte d'anguille qui va toujours éviter l'affrontement, mais une souplesse qui voit comme la relation avec l'autre, l'intérêt de l'autre, le point de vue de l'autre, comme suffisamment important pour faire preuve de souplesse, pour s'adapter, pour changer certaines choses, pour dire « ceci est mon droit, mais je vais mettre mon droit de côté parce que l'intérêt de l'autre a de la valeur ». Faire preuve de sagesse dans ce sens-là, c'est préférer l'unité et la relation avec l'autre et l'intérêt de l'autre plutôt que de donner toujours la priorité à ceux à quoi on a le droit ou ceux qu'on estime être la bonne chose à faire. Et Jacques continue en parlant la sagesse est pleine de compassion. Et là aussi, c'est vraiment l'inverse de la jalousie. Si la jalousie voit chez l'autre, chez les bonnes choses chez l'autre, quelque chose à envier et quelque chose qui nous ronge de l'intérieur parce qu'on ne l'a pas, la compassion, au contraire, voit les difficultés de l'autre et accepte de les partager, de les faire siennes d'une certaine manière, de voir la souffrance de l'autre et dire « on va partager ce fardeau ensemble ». La sagesse d'en haut est sans parti pris. Le fait de ne pas choisir et d'être ouvert à tous. Et c'est là, je crois, qu'il y a quelque chose de vraiment radical dans cette sagesse. On en a déjà parlé il y a quelques semaines avec le fait de ne pas faire de parti pris entre les riches et les pauvres. Mais il peut y avoir une bonté qui s'exprime de manière vraiment généreuse, mais envers notre époux, notre épouse, notre famille, nos proches, ceux qu'on estime être dans notre cercle. Et il peut y avoir des formes très radicales. Je pensais à des amis que j'ai qui sont d'origine sicilienne. Il y a quelque chose de fort dans les clans siciliens, peut-être chez les Italiens de manière générale, mais peut-être encore plus chez les Siciliens, où quand on est à l'intérieur, on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver, que chacun est prêt à mourir pour l'autre. Il y a une unité et le fait d'être prêt à se donner pour l'autre est central dans les relations. Mais quand on commence à entrer dans la périphérie du clan, quand on commence à voir qui est dedans, qui est dehors, on se retrouve finalement avec des relations qui sont tout à fait habituelles. Et là, je crois que la sagesse d'en haut va nous pousser pour aller plus loin et dire « mais vers qui tu n'es pas prêt à avoir cette relation ? Vers qui tu n'es pas prêt à faire preuve de cette pleine compassion ? Est-ce que tu es prêt à accepter cette sagesse qui est prêt à se tourner vers tous, y compris ceux avec qui on n'aurait pas d'affinité ? » Elle est sans hypocrisie, c'est-à-dire qu'elle est justement pas dirigée par son propre intérêt. On peut avoir toute l'apparence d'aider quelqu'un et d'aimer quelqu'un et d'être bon envers quelqu'un par altruisme, mais après, de manière hypocrite, avoir un certain agenda caché qui au final dépend plus de ses propres intérêts que de l'intérêt de l'autre. Et là aussi, il y a une remise en question dans le fait que est-ce que notre sagesse est sans hypocrisie dans ce sens-là ? Et comme on l'a vu avec la sagesse terrestre, l'inverse du désordre et de la division, c'est ce qui est présenté ici au verset 18, que la sagesse d'en haut produit la paix, que ceux qui agissent suivant la sagesse d'en haut sont des artisans de paix, c'est littéralement des faiseurs de paix. Alors je crois que cette vision de la sagesse peut être assez différente de la représentation qu'on peut en avoir parfois. On est très loin du vieux sage assis sous son arbre. C'est ni Rafiki, ni Yoda, ni Gandalf. C'est pas nos représentations habituelles de l'homme sage. C'est pas celui qui prononce des phrases très mystérieuses qu'on a du mal à comprendre sur le sens profond de la vie et de l'univers. Mais au contraire, c'est ce fait de pouvoir être tourné vers l'autre, de placer Dieu et les autres en avant et de pouvoir peut-être même s'oublier un peu soi-même. Que l'inverse de cette sagesse-là, c'est celle qui produit les conflits, les divisions par intérêt personnel, et que cette sagesse d'en haut est celle qui produit la paix, l'unité et des liens forts. Je lisais cette citation qui m'a beaucoup parlé. Je ne sais pas si le vocabulaire tient peut-être de mon arrière-plan côté ingénierie, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était présenté. Se convertir, c'est faire l'expérience que, contrairement aux lois de la physique, on n'est debout que lorsque notre centre de gravité se situe en dehors de nous. Alors peut-être ceux qui ont fait des études littéraires demanderont des explications à ceux qui ont fait des études plus scientifiques, mais cette idée, je trouvais forte, d'avoir son centre de gravité en dehors de soi, de pouvoir avoir le centre de sa vie qui n'est plus au milieu de soi, au milieu de ses intérêts, au milieu de ce qu'on veut, mais qu'il puisse se déplacer vers Dieu et vers les autres. Et d'une certaine manière, ça n'a rien de très original. C'est un peu le conseil habituel, peut-être la règle numéro un quand il y a de l'accompagnement pour les couples, la préparation au mariage. La règle numéro un, c'est que la relation de couple ne peut se développer que si chacun travaille au bonheur de l'autre. Que si le bonheur de l'autre est la priorité avant que ce soit notre bonheur personnel. J'espère que c'est pas une révélation très profonde pour les couples aujourd'hui. J'espère que c'est pas un encouragement au célibat pour ceux qui seront encore célibataires. Mais le couple ne peut produire le bonheur des deux que si chacun travaille au bonheur de l'autre comme priorité. Mais là où je crois que cette sagesse qui vient d'en haut est vraiment radicale et nous remet tous en question, c'est d'amener à voir cette logique qui fait sens et dont on voit les bons fruits dans un couple, de voir cette même logique s'appliquer au-delà du couple, dans la famille, dans nos proches, dans l'église, jusqu'à nos ennemis. Là, on voit l'exemple de Jésus prendre toute sa force. Jésus n'a pas été un artisan de paix juste avec ses amis, juste avec ses disciples. Il a été celui qui amène la paix à toute l'humanité, même si il a pu faire toute l'expérience de l'hostilité qu'a pu avoir l'humanité envers lui. Il a quand même été l'artisan de la réconciliation entre Dieu et tous les hommes. D'une certaine manière, on pourrait résumer la sagesse d'en haut avec la manière dont Jésus résume la volonté de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a été très clair sur ce que ça implique quand il dit tu aimeras ton prochain, c'est tous les prochains. Donc Jésus ne nous appelle pas à étendre cette sagesse et cet amour que à notre cercle plus ou moins élargi, qui peut aller du couple jusqu'à un cercle relativement élargi, mais de toujours pouvoir étendre notre amour d'une certaine manière, d'apporter notre centre de gravité toujours un peu plus loin de nous, toujours un peu plus près de Dieu, un peu plus près des autres. Et c'est tout un processus, mais que voilà, nous puissions voir ce centre de gravité se développer et s'éloigner de nous au fur et à mesure que nous marchons à la suite de Jésus. Et que cette sagesse, comme le dit Jacques, elle produit forcément du fruit. Elle produit forcément un caractère différent. Elle produit forcément des relations différentes. Elle produit des situations, des relations, une vie où nous avons l'occasion de manifester envers les autres l'amour que nous avons reçu de Dieu. Alors peut-être que, en disant cela, ça peut sonner comme un fardeau, quelque chose d'impossible à porter. Et je crois que de toute façon, il y a quelque chose de toujours impossible à porter quand on fait face à la volonté de Dieu. Ça fait partie du fait d'entendre la volonté de Dieu. D'une part, si, pour être tout à fait clair, si vous estimez que simplement suivre Jésus, c'est venir de temps en temps le dimanche et puis estimer que croire qu'il y a un Dieu quelque part est le ticket pour l'éternité, je crois qu'il y a une vraie inquiétude qui doit naître de ce texte-là. Par contre, si vous cherchez à vivre cette sagesse d'en haut, vous allez forcément vous en rendre compte assez rapidement, et je pense que vous en êtes déjà rendu compte, c'est qu'on n'est pas à la hauteur, c'est qu'on fait face à nos propres faiblesses. Je crois particulièrement que plus on veut suivre Jésus, plus on veut vivre cette sagesse d'en haut, plus on réalise à quel point nos faiblesses sont là et à quel point il y a tout un tas de choses dans notre vie, dans ma vie, qui est de l'ordre d'être centré sur moi-même. Et là, Jacques est au contraire plein d'attention envers nous, plein de compassion, et il est là aussi pour nous rassurer. On l'a lu au premier chapitre. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Dieu est prêt à voir notre faiblesse, à voir notre manque de sagesse tout simplement, et nous dire, mais je suis là pour t'aider, t'accompagner, et je suis là pour faire preuve de grâce et de pardon. Parce que si on commence à chercher à suivre Jésus sans comprendre à quel point il est prêt à nous pardonner, alors oui, la vie chrétienne sera source de toute forme de culpabilité et de peut-être même de déprime. Mais si on réalise que toute notre marche avec Dieu, c'est d'abord une mise en confiance dans la grâce de Dieu, dans sa capacité à nous pardonner, à chaque fois qu'on verra que là, on a agi non pas par la sagesse d'en haut, mais par la sagesse d'en bas, c'est toujours une occasion de se rappeler que ce chemin sur lequel nous marchons, nous y marchons par la grâce de Dieu et pas par nos propres forces. Ça ne doit pas nous décourager de continuer à chercher à marcher sur cette voie-là, mais jamais nous donner l'illusion qu'on pourrait y marcher par nos propres forces ou de manière parfaite, sans faire face à certains échecs. Alors c'est vraiment ma prière ce matin que nous puissions être toujours un peu plus transformés par la sagesse de Dieu. Que notre communauté, que notre Église soit pas un ensemble de vieux sages comme Rafiki, Yoda ou Gandalf, mais au contraire des personnes qui sont prêtes à marcher à la suite de Jésus et dire « mais on n'est pas parfait ». On a nos égoïsmes, on a nos sagesses terrestres, mais on veut toujours être transformé par Dieu, transformé par sa sagesse et vivre des relations renouvelées. Ma prière, c'est vraiment que Dieu nous pardonne notre folie et qu'il nous donne toujours plus de sa sagesse avec la grâce qu'il nous manifeste. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, merci pour à la fois le chemin que tu nous présentes et la bonté que tu as envers nous sur ce chemin. Merci parce que tu nous amènes toujours à considérer une manière de vivre qui nous amène à nous pousser au-delà de nous-mêmes, de nos propres logiques et d'aller vivre plus ta volonté, vivre plus les relations que tu veux renouveler. Seigneur, tu veux nous donner ta sagesse pour voir notre centre de gravité se tourner vers toi et vers les autres, que nous puissions vraiment avoir un amour qui t'aime et qui aime notre prochain. Et qu'en toute chose, nous puissions nous accrocher à ta grâce, que le chemin que tu nous présentes ne soit pas un chemin qui nous déprime par nos incapacités ou nos faiblesses, mais au contraire, qu'il soit un chemin où nous soyons heureux de voir que c'est sur ce chemin que tu nous accompagnes, sur ce chemin que tu nous donnes les ressources et sur ce chemin que tu nous pardonnes en toutes choses pour que nous puissions vivre ce que toi tu veux nous permettre de vivre, Seigneur. Amen.